RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Un excellent dimanche avec nous sur RMC, merci d'être là. Tout à l'heure, entre 8 et 10, on changera d'univers, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. On reviendra sur un grand rendez-vous dédié à l'automobile. Il s'agit de Rétromobile, voilà un grand salon qui ouvre ses portes. On en parlera tout à l'heure donc avec Jean-Luc et avec évidemment le directeur, le commissaire de ce salon. Et vos questions auto tout à l'heure au 32-16. Mais dans l'immédiat, vous le savez, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux. Laetitia, pour cette deuxième partie, eh bien, nous recevons un invité exceptionnel ce dimanche.
Et oui, nous avons vraiment l'honneur de recevoir Jacques Perrin, qui est co-réalisateur d'un film qui vient de sortir cette semaine, Les Saisons. Alors j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous engage vraiment à aller le voir en famille, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un film événement de ce début de l'année, je le dis. Jacques, bonjour, merci
bonjour
d'être
Jacques.
Avec nous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors Laetitia, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se mettre dans l'ambiance. Voici un petit bout, un petit extrait de la bande-annonce du film.
L'hiver durait depuis 80 000 ans. À la fin de l'âge de glace, d'immenses étendues forestières envahissent l'Europe, entraînant avec elles un cortège d'animaux sauvages. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. 20 000 ans de notre histoire commune avec les animaux.
Voilà, Les Saisons donc, en salle depuis mercredi dernier, Laetitia.
Eh oui.
Un film que vous avez eu la chance de voir.
Alors bon, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont déjà vu Microcosmos,
bien sûr.
Le peuple migrateur, Océan, et maintenant nous avons Les Saisons. Alors pour une fois, Jacques, vous avez filmé les animaux sauvages, vous n'avez pas filmé les animaux sauvages aux quatre coins de la Terre, vous êtes resté en Europe, en France aussi, pas mal en France, puisque ce film raconte la grande épopée de la vie sauvage en Europe, de l'ère glaciaire jusqu'à nos jours, hein, on l'a entendu dans la bande-annonce. Quel a été le point de départ de ce projet ?
Effectivement, après avoir fait des films qui se passaient ailleurs, là-bas, peut-être que c'était intéressant de se rapprocher un peu d'un territoire qu'on connaît bien, qui est l'Europe. Et puis, quand on a fait le point pour savoir quelle était la diversité qui régnait en Europe, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il y avait eu toute une longue histoire, et que l'Europe n'était pas tout à fait ce qu'elle est maintenant, aujourd'hui, en tout cas, quand vous insistez, c'est vrai, sur la France, en parlant beaucoup de la France, c'est vrai que quand on revient en arrière et qu'on refait le point sur cette immense diversité, elle n'avait pas à pâlir devant ce que l'on connaît maintenant de l'Amérique du Sud, de l'Indonésie. Elle était tout aussi luxuriante, formidable, pleine de rencontres tout à fait inattendues, avec des animaux qui ont été poussés parce que l'avancée de la société, de l'homme, des animaux qui sont retrouvés aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire on en trouve les grands animaux, on les retrouve en Pologne, on les retrouve en Roumanie, et donc alors que les nôtres, c'est un peu le renard ou le lapin qui fout le camp au bout d'un champ, et on voulait reconstituer ça, parce que c'est une fête de la nature tout à fait extraordinaire. Donc faisant une chronique sur les animaux, on l'a abordé en faisant une chronique dans le temps. Donc on commence il y a 20 000 ans et on finit aujourd'hui.
Mais on a l'impression quand même, quand on voit tous les animaux pendant ces 20 000 ans de l'histoire des animaux, que rien n'a changé, puisque ce sont des animaux qui existent encore aujourd'hui en Europe. Sauf peut-être les bœufs musqués.
Oui, les bœufs musqués, puis cela dit, s'ils existent encore, c'est bien ce que l'on précise, hein, ils existent aux frontières de l'Europe, mais pour rencontrer un bison, pour rencontrer des ours, rencontrer même des loups, c'est quelque peu difficile. Alors on trouve toujours des territoires où ils sont en plus grande présence qu'ils ne sont en France. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette réunion de tous, cette fête sauvage de tous ces animaux, et qu'on les a rassemblés dans une Europe telle qu'elle est. Était attrayante, formidable, il y a 10 000 ans, 8 000 ans. Et c'est fantastique, parce que c'est bien de regarder aussi en mettant en présent le passé. Et là, on se rend compte de la diversité, on se rend compte des animaux, et on se rend compte surtout d'un territoire qui était mais fabuleux. Les grands arbres existaient, la diversité des arbres existait, elle a existé pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait une petite population humaine vienne et construisent un peu les premières maisons, le néolithique. Et là, c'est là où a commencé le grand bouleversement.
Alors justement, l'homme est très discret dans le film. Hein. On a des silhouettes, des pas, un regard parfois. On a l'impression que c'est l'histoire de la forêt vue du point de vue des animaux, qu'on a l'œil des animaux plutôt, et que c'est les animaux qui nous observent.
Si c'est ça que l'on remarque du film, c'est bien, ça nous fait plaisir. Avec Jacques Clouzot, qui est le réalisateur, avec moi, c'est ce que l'on voulait, de se rendre compte qu'un territoire où il n'y a plus la présence humaine, mais d'un territoire où il y a la diversité, on rencontre les êtres, un film sur les êtres vivants. Et malgré tout, avec le nombre d'espèces qui régnaient comme ça sur ces vastes territoires, il y avait de quoi s'étonner, être amusé. Alors donc, pourquoi marquer l'homme ? Il y a une chose qu'on a observée, c'est que de temps en temps, quand on met un homme avec quelques animaux, on ne regarde plus que l'homme. C'est le fait peut-être de l'habitude, l'usage du cinéma. On a vu tout, c'est les films policiers, les westerns, dès qu'il y a un homme.
Et puis c'est lui qui prend la vedette, en fait.
Et c'est lui qui prend la vedette. Mm-hmm. Et donc les animaux deviennent des acteurs de complément. Voilà, des animaux de complément. Alors quand même, pour une fois,
il y a Godzilla où c'est un peu différent.
Il y avait Godzilla,
mais
quand on réfléchit, il y a quelques films qui ont été faits sur la nature et cette diversité, sur les animaux, les plantes, mais quand on regarde bien, il y a eu depuis 10 ans, une cinquantaine d'années, il y a eu 100 000 films. Il y en a combien qui parlent des animaux ? Il y en a eu. Ah, vous arrêtez avec parler des animaux toujours. Oui, c'est vrai que depuis 10 ans, il y en a eu 5, il y en a eu 6, il y en a eu 7.
Oui, mais qui ont eu du succès quand même. Les gens demandent à voir ces films. Alors peut-être qu'ils veulent, redécouvrir les animaux ?
Ah ben je pense, c'est pas redécouvrir,
les découvrir,
parce que tous ces animaux que l'on rencontre encore dans nos campagnes, dans nos bois, plus que dans les forêts, on imagine qu'on les connaît, mais on les connaît pas bien. Non. S'il fallait emmener des enfants, leur prendre la main et les emmener dans ce qui reste de forêt et leur expliquer quelle est cette diversité d'animaux, je crois que le discours serait très bref, parce qu'on sait pas très bien. Et donc de raconter ce que peut faire le Loir, de raconter ce que peut faire le blaireau. Comme ça, c'est des animaux que l'on connaît, plus ou moins. Mais on ne les connaît pas. Mmh. On ne les connaît pas. Et leur particularité, la façon dont un animal correspond à un environnement, c'est toujours très lié. Il n'y a pas d'animaux qui soient dans un environnement qui ne leur correspond pas. Donc, d'apprendre qu'il y a une logique. Et que la nature, ce n'est pas le fouillis. Non, la nature, premièrement, c'est vrai que la nature fait pousser du sauvage. Du sauvage, c'est-à-dire des plantes qu'on a bien cataloguées. Mais pas seulement ça, la nature crée aussi une diversité formidable et dans laquelle vivent ces animaux et avec une puissance de différence de plantes, d'arbres tout à fait extraordinaire. Donc ce serait bien qu'on puisse raconter aux enfants. Seulement pour raconter aux enfants, encore faut-il que l'on connaisse nous-mêmes la nature. Et donc pour les adultes, c'est pas encore tout à fait le cas.
On découvre par exemple dans ce film que les loups sont des animaux forestiers et qu'ils ont été chassés des forêts pour aller dans la montagne, par exemple, par l'homme. Et c'est incroyable de voir des loups, de meute de loups comme ça dans une forêt qui chasse.
La chasse, elle a commencé il y a combien de milliers d'années, il y a combien de siècles. Et ce qui est étonnant, c'est de penser qu'aujourd'hui, elle se poursuit. Elle se poursuit presque, de temps en temps, il y a une espèce de continuité, d'engagement qui a été fait contre vraiment l'animal le plus sauvage, le plus exemplaire, le plus beau, contre le loup. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 300 loups, grosso modo, si je me trompe pas, en France, 300 loups, dernièrement, on a donné la possibilité d'éradiquer. C'est-à-dire qu'on a donné le permis de chasser, de tuer encore 30 loups. Mais il reste plus que on en est à 270. 270 par rapport à ce qui existait il y a 800 ans, il y a 1000 ans, ne parlons pas encore il y a 5000 ans. C'était des troupes d'animaux sauvages qui déferlaient dans les bois, dans les forêts, et qui donnaient l'impression vraiment qu'est-ce que c'est qu'une nature ? Qu'est-ce que c'est que cette réjouissance de la nature ? Donc, maintenant, il y a quelques animaux. C'est vrai qu'en plus, quand on sait qu'il y en a un ou deux qui sont perdus dans les Pyrénées ou dans les Alpes, l'autorisation est venue pour les abattre, je dirais presque jusqu'au dernier. Quel dommage ! Quel dommage ! Comment peut-on vivre et parler de la nature en faisant disparaître toutes les espèces qui l'illustrent ?
Jacques.
On va en parler justement aussi avec notre second invité qui est Gilbert Cochet, qui est conseiller scientifique sur le film.
On revient dans un instant aussi. Aurélie Frex, notre productrice, est allée à l'encontre des premiers spectateurs de votre nouveau film pour justement donner leurs sentiments. On va retrouver un petit micro-trottoir dans une minute. Puis une spectatrice a une question aussi pour vous. On va en parler dans un instant. 3216animaux@rmc.fr, c'est le week-end des experts avec la voix, votre voix en fait, et nous marque. Moi, je suis très impressionné de vous avoir avec nous dans ce studio. Bon. Parce que votre voix fait partie véritablement du patrimoine français. C'est un vrai honneur que de vous avoir ce matin. Merci. On revient dans un instant. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts et les animaux. Ce matin, Laetitia Barlerin, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Perrin à l'occasion de la sortie de son nouveau film, donc Les Saisons. On va en parler, on en parle jusqu'à 8h. Mais auparavant, Aurélie Frex, notre productrice, était à la sortie d'un cinéma il y a quelques jours et a recueilli les réactions en fait des spectateurs de ce film. Écoutez.
Très beau film, une belle histoire, surprenant sur la fin parce qu'on ne s'attend pas du tout au rapport avec l'homme, avec tous les dégâts qu'on peut causer.
J'ai vu les trois et j'ai un petit faible pour ce dernier, Les Saisons. C'est celui-ci que j'ai préféré. Tous ces petits fans, ces petits chevreuils, ces petites biches, tous ces petits animaux, les écureuils, les oiseaux, je crois que je les ai tous aimés.
J'ai pensé beaucoup de choses et j'ai trouvé que c'était un excellent film parce que c'est le seul genre de film que j'aime. Voilà. Et je vois tous les films, on les a tous vus, les films
de Perrin.
De Perrin, on les a toujours vus. Je me demande comment il fait ça. Je ne sais pas comment il fait, mais il doit avoir une documentation énorme et il doit voyager beaucoup, hein.
Donc Jacques, ça c'est une question un peu globale. Comment il fait ces films, Jacques? On a trois heures, hein, vous pouvez y aller.
Oui, alors, bien sûr.
Vous êtes bien entouré, hein. Je crois que vous avez beaucoup de personnes de conseiller.
Oui, nous sommes devant vous, nous sommes deux, Gilbert Cochet. La première personne que je rencontre, les premières personnes, ce sont des scientifiques. C'est eux qui nous ouvrent leur rideau qui donne sur la nature. C'est eux qui nous font prendre les sentiers et qui nous racontent quels sont les animaux. Non pas simplement les animaux que l'on voit, mais ceux qui ont existé ou ceux qui ont été poussés aux marges de l'empire comme ça, du royaume de la modernité, et donc qui nous racontent des choses confondantes. Et quand on nous raconte, c'est pas une histoire, une autre histoire, c'est vraiment l'histoire des êtres vivants à laquelle nous sommes là, mais auquel les animaux aussi sont attachés. Donc c'est pas, on va vous raconter entre hommes une histoire, puis il y en a une autre qui est un peu plus loin, on les connaît pas très bien, sont les animaux. Eh ben non, on habite tous. Voilà, il y a une histoire sur cette planète, sur l'hémisphère nord, sur cette Europe, et il est bien de d'être un peu plus ouvert, un peu plus regarder un peu plus les autres, nos cousins de planète comme ça, et de s'apercevoir qu'il peut y avoir des histoires confondantes. Moi, j'ai l'impression toujours que la forêt, parce que le principal personnage du film, c'est la forêt. J'ai l'impression quand on regarde, on prend une grande allée et qu'on regarde les plantes, quand on regarde des grands arbres, mais il y a une foule d'histoires. Alors bien sûr que la foule d'histoires fait un peu partie de la sensibilité de chacun et un petit peu de la façon d'interpréter tout ce qui nous entoure. Mais c'est formidable. Donc, on a choisi cette histoire, si tant est que ce soit une histoire, cette chronique, elle aurait pu en être une autre. Ce qui veut dire qu'il y aurait normalement encore des tas de films qui sont à faire.
Alors justement, Gilbert Cochet, vous êtes aussi avec nous. Vous êtes conseiller scientifique pour Les Saisons. Vous êtes administrateur aussi d'une association pour la protection des animaux sauvages qui s'appelle l'ASPA. Alors, quel était votre rôle auprès de Jacques Perrin? Comment on travaille avec Jacques Perrin?
Dans un premier temps, on se rencontre, et puis, comme l'évoquait Jacques, on raconte l'histoire. Donc c'est une histoire très longue, 20 000 ans, vous pensez bien.
Et vous en avez eu des soirées à raconter.
Voilà,
hein.
Exactement. Mais dans le même temps, on va aborder des tas d'aspects. Quels étaient les habitats qui étaient présents? Quelles étaient les espèces? Où est-ce qu'on peut les retrouver aujourd'hui? Parce que tout a été chamboulé. Et donc c'est à partir de ces connaissances actuelles qu'on va essayer de construire une histoire qui remonte au passé. Et quelque part, il y avait un point qui était très important là-dessus, qu'on avait beaucoup évoqué, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas qu'on quitte le film abattu, les bras ballants.
Ah non, c'est vrai. Alors, pour, alors là, c'est vrai que c'est assez optimiste.
Hein, exactement.
Parce que vous parlez d'une alliance entre l'homme et la nature qui peut se faire.
C'est ah mais étonnant. Complètement, c'est cette notion de nouvelle alliance. Il faut vraiment comprendre que depuis quelques décennies, il y a eu un basculement culturel complet. C'est-à-dire ces animaux, comme on voit dans le film, les loups qu'on tire, qu'on tue, les chouettes, voilà, les nuisibles, etc. On est en train de sortir de cette époque-là. Alors, tout ne va pas à la même vitesse, bien
avant,
entendu.
Avant, c'était où les animaux étaient utiles, voilà. Où ils étaient nuisibles. Et il n'y avait pas entre les
non,
deux.
Non, non, non.
Où ils portaient malheur.
Où ils portaient malheur, ouais, c'est vrai.
Et donc, pour l'essentiel, on les éliminait. Et maintenant, on les préserve, on les protège. Il y a des bonnes volontés qui se lèvent. Il y a des personnalités qui font des actions de réintroduction, de préservation. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment... Quand on a fait nos avant-premières, on a évoqué cet aspect-là avec le public. Et le public était ravi. On a des tas d'exemples. Le retour des saumons dans les rivières, le retour des castors, des loutres, le retour des bouquetins dans les montagnes, des chamois,
les
grands rapaces.
Et les forêts aussi qui
et les forêts. Hein. Les forêts. On a 16 millions d'hectares de forêts actuellement. On en avait moitié moins en 1850. Et c'est de la forêt naturelle qui se met à pousser d'elle-même. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment le point extrêmement positif.
Ça fait plaisir, cet optimisme.
Ah oui?
Mais complètement. Parce que l'optimisme, oui, mais il est fondé. Et on peut le vérifier. Mmh. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des films qui nous accablent. La sinistrose, elle est pas loin. Mais c'est terrifiant. Parce que, premièrement, il y a des signes qui indiquent un retour des choses. Et quel retour? Et on ne les lit pas suffisamment. Comme dit Gilbert, bien souvent, on connaît les journaux des mauvaises nouvelles. Allez, on va essayer d'en créer un qui va être le journal des bonnes nouvelles. Et il y en a. Il y en a, c'est sur la diversité, sur les forêts, il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'en plus, ce que soulignait Gilbert, c'est pas simplement des consignes préfectorales, gouvernementales qui changent des choses. C'est parce que ici et là, il y a des hommes, des gens, de bonne volonté, et qui font avancer, mais qui agissent d'une façon formidable. Mais qui agissent sur, je dirais presque un petit lopin de terre, sur un petit plan d'eau, et qui travaillent, et qui regardent, tiens, mais il y a ce poisson qui existait, c'est drôle, on n'a pas touché à ce plan d'eau depuis quelque temps, il réapparaît. Comment se fait-il? C'est quoi? C'est l'oiseau qui l'a apporté, c'est peut-être possible, c'est le vent qui apporte, mais tout ça c'est réjouissant. Alors c'est réjouissant, et pour les bonnes nouvelles, encore faut-il que, accompagnant ou étant à l'égal des hommes de bonne volonté, il faut qu'on s'intéresse aussi pour savoir qu'il y a des choses qui sont pas si sinistres que ça. Donc voilà, le film, il épouse un petit peu le bon sens dans lequel va notre société, tout en sachant que l'on ne peut pas s'endormir sur des semblants beaux lauriers et qu'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Dans les témoignages là qu'on a eu, on a eu des personnes qui étaient émerveillées par ce qu'ils voient. On voit, c'est un peu le regard émerveillé d'un enfant. D'ailleurs, on voit souvent dans le film le regard d'un enfant qui observe la vie sauvage dans la forêt. C'est marrant parce que même les spectateurs ont ce regard d'enfant alors qu'ils sont adultes.
Oui, il y a l'enfant correspond à deux remarques. Premièrement, effectivement, faut s'occuper de demain pour les enfants. Mais en même temps, on dit à ces enfants, ils doivent regarder des choses qui sont très belles. Et c'est pas en attendant le beau jour qu'il fasse beau. Non, c'est que c'est la responsabilité des adultes et que ces enfants qui regardent là le théâtre vivant que l'on met devant lui, c'est à nous de le préparer. Et on ne sait pas suffisamment. Il s'agit pas de prier en se disant pourvu que tout se passe bien puis l'enfant va être heureux plus tard. Non, ça doit être bien. Aujourd'hui, demain, et ça on ne se rend pas compte parce que quand ça va mal auprès de la nature, le dégât peut être terrifiant. Les choses peuvent repartir dans le bon sens, mais quand même, méfions-nous.
Jacques Perrin est notre invité ce matin sur RMC, jusqu'à 8h avec évidemment Laetitia Barlerin. Nous avons aussi la chance d'avoir Gilbert Cochet avec nous et puis d'autres invités vont apparaître dans quelques minutes. La météo, les infos, Laetitia, et on est de retour sur RMC.
À tout de suite.
À tout de suite. Laetitia, encore une petite question flash. Et là maintenant ce sont les canards qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et nous allons maintenant nous intéresser à la question d'FX qu'on a reçue sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et au passage, vous pouvez cliquer sur...
J'aime, bien sûr.
Je pars à la montagne, nous dit FX, avec mon chihuahua Roger. Il s'appelle Roger, son chihuahua. C'est sympa, non? Que puis-je faire pour lui protéger les pattes lorsqu'il marche dans la neige?
Oh, le pauvre petit chien.
Le pauvre petit Roger.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que la neige, la glace, le sel de déneigement provoquent des irritations au niveau des pattes.
Ouais, c'est pas bon, ça. D'accord.
Des blessures, des fissures, des coussinets. Oui. Vous avez souvent des chiens qui se lèchent entre les coussinets, qui sont rouges, vraiment rouges. Ouais, ouais. Donc, il faut, alors d'abord, je vous conseillerais préparez d'abord les coussinets. Faites en sorte qu'ils soient plus épais et plus souples. Ça veut dire qu'une à deux semaines avant de partir à la neige, vous tannez les coussinets. C'est-à-dire vous mettez un produit qui s'appelle une solution tannante qui va bien nourrir le coussinet, qui va préparer le coussinet.
Qui va l'isoler un petit peu peut-être aussi, non?
Pas. Non. Non. Alors justement, quand vous arrivez à la neige, il faudra isoler ces coussinets, les protéger avec du gras. Vous allez graisser les pattes, c'est-à-dire vous allez mettre de la pommade isolante, par exemple de la vaseline, par exemple un baume qui est vendu aussi pour les mushers, vous savez.
Donc
les conducteurs
de
chiens de traîneau.
Une crème spéciale, on peut pas mettre par exemple de la vitamine A ou des choses,
non.
D'accord.
Vaseline ou alors le baume que vous aurez vétérinaire qui est indiqué pour les chiens des mushers, voilà. Et puis surtout après la neige, quand vous revenez, vous séchez bien votre chien et vous enlevez les morceaux de glace qu'il y a entre les coussinets, parce que ça aussi ça irrite, donc vous séchez bien les pattes.
Voilà, vous savez tout maintenant pour protéger les chihuahuas de la neige.
Et puis il y a des bottines aussi.
Bien sûr.
Vous pouvez mettre des bottines, pourquoi pas.
C'est tellement mignon. 32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend, les amis, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Voilà, c'était RMC, le week-end des experts, les animaux, avec un invité exceptionnel. Pendant une heure, Jacques Perrin nous fait l'amitié d'être avec nous en studio pour nous faire découvrir son dernier film, Les Saisons, Laetitia Barlerin.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film-ci, alors il y a toujours des choses extraordinaires dans vos films quand vous filmez les animaux, parce qu'on se dit, mais comment il a pu filmer? Alors, quand c'était le peuple migrateur, on se dit, mais comment il peut filmer aussi près des oiseaux dans les océans? C'est comment il peut filmer aussi près des poissons qui vont si vite? Et là, il y a des courses-poursuites étonnante dans le film, dont des loups qui chassent un sanglier ou des chevaux. Alors le problème, c'est que si on y va en drone, on peut pas parce qu'il y a des arbres. Si on y va en voiture, on peut pas parce qu'il y a des arbres. Comment vous avez fait? Quelle prouesse technique avez-vous eu pour filmer ces animaux où on est au plus près de l'animal qui chasse?
Je crois que quand il y a quelque chose qui paraît compliqué, sinon impossible, il faut trouver la solution, quoi, puis on y arrive. Et donc, ce qui nous plaît avec Jacques Clouzot, c'est la course, la représentation physique de la vie. Hein, quand on est au-dessus de tous les reliefs, avec les oiseaux migrateurs, que ce soit des montagnes, au-dessus des nuages, ça n'avait jamais été fait, donc tout au moins dans un film. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va passer dessus de tous ces reliefs. Comment on va faire? C'est pas évident. Alors, c'est bien qu'il existe des ULM, mais pour faire des ULM qui accompagnent les oiseaux, sur lesquels il y a un pilote et un caméraman, et dont le caméraman doit se trouver au début dans le nez de l'aéronef.
On y croit et qu'on soit véritablement.
Et donc, c'est une sensation. Donc, on va vers, non pas la performance technique, mais on va au-devant d'une émotion intense. C'est formidable, vous rendez compte d'être à 3000 mètres sous vos pieds, il y a le sol qu'on voit très loin, les forêts très loin, et vous touchez à 1 mètre, vous touchez les premiers, les grues, les oies sauvages, etc. Formidable, il fallait trouver la solution, on l'a trouvé. Pour la mer, pour foncer à toute allure sous la surface de la mer, en continuité des thons, des dauphins, comment il faut faire? Parce que ça n'a jamais été fait, parce que généralement on se penche par-dessus le bastingage, et puis on voit sous l'eau, on voit le défilement des poissons. Non, on a trouvé la solution. Et là, comment faut-il faire? Parce que c'est quand même, cette forêt, elle est vivante, elle est impénétrable. Comment on va faire? Et donc, c'est les premiers.
Il y a des arbres.
Oui, les arbres, il y a un rideau d'arbres. Comment va-t-on faire? Donc, quand on est animé et qu'on a envie de voir cette représentation vivante, extraordinaire de la nature, des animaux, au fil du temps, avec nos amis qui sont techniciens, on trouve tous amoureux, tous étant très très proches avec les animaux. Donc, c'est en fonction de l'observation que l'on veut de plus en plus proche que l'on trouve les solutions. Parce que ce que l'on veut, c'est d'être à côté, à toute vitesse, quelle que soit la vitesse des animaux. S'ils vont à 40 km/h, on va pénétrer à l'intérieur de la forêt, à l'intérieur des bois qui sont des arbres très denses les uns à côté des autres, eh bien on prend le temps et on trouve la solution.
Et c'est quoi la solution?
C'est les technologies, j'imagine. Ah.
Ce sont des technologies, oui. Mais vous savez, c'est des technologies.
Il y a un plan où vous, on a l'impression de suivre un insecte comme ça qui vole. C'est impressionnant.
Oui.
Et comment on fait ça?
Mais c'est. Mais imaginez vous-même que on va vous dire, on va vous laisser 3 mois parce qu'on se donne du temps. Hein. Il y a 1 an, il y a 2 ans de préparation.
Il y a eu 4 vous ans, a... je crois, de préparation pour ce film et de
ouais,
tournage.
Peut-être, oui. Ah non, de tournage, il y a eu 2 ans.
Oui.
Et deux ans, oui, grosso modo. Eh bien, on n'est pas des grands, on est des grands amateurs. Non, mais c'est vrai, grands amateurs. Et mais qui avons un plaisir énorme à trouver la solution aux choses, à pénétrer dans la course, à être à côté, devant, derrière les animaux, et s'apercevoir que c'est fantastique. Et quand on est agile, on le devient un tout petit peu, mais pas comme les animaux, mais vous foncez sur un arbre, vous rentrez dedans, et dernier moment, et voilà, il est évité. Ça. Et ben ça, c'est prodigieux. On arrive à trouver.
Mais quand on filme une course-poursuite comme ça entre deux animaux, ça doit être, parce qu'on peut pas faire des répétitions, là.
Non, il n'y a pas de répétition. Mais à un certain moment, on avait un engin qui ressemble à un scooter, avec, voilà, qui est très étroit, donc qui permet de se faufiler. Avec des roues,
électriques,
bien sûr.
Il n'y a pas de bruit.
4 roues indépendantes les unes des autres, avec un système d'amortisseurs. Mmh. Plus dessus, le caméraman qui a un steadicam qui lui permet lui-même. Ce qui fait que vous êtes sur une caméra et un appareil qui est soutenu par les anges, quoi, qui est soutenu par les oiseaux invisibles du ciel, et donc vous vous faufilez à l'égal. Donc le petit broussaille, vous l'évitez, les racines, vous les évitez, le petit arbre, vous pouvez le frôler, même le gros arbre, et ben voilà. Mais ça vient petit à petit.
Et puis on filme aussi des vidéos gags. J'ai vu que sur la bande-annonce, il y a un écureuil qui se prend un tronc d'arbre. Enfin, il y a des trucs assez drôles.
Oui, c'est la nature.
Alors je vais m'empresser d'aller voir le film au cinéma, mais on a l'impression que, en regardant cette bande-annonce, on sourit beaucoup.
Oui. Ah oui.
Voilà, c'est ça. C'est réjouissant. C'est les animaux. C'est une volonté farouche de vivre, de survivre. Ouais. Mais dans le même temps, ils sont désopilants.
Ouais,
mais ils se cassent la gueule et ils remontent.
Ils se ratent
complètement. Ouais. Donc c'est un spectacle. Voilà. Je vous dis, c'est un théâtre de la nature. Le rideau s'ouvre et d'un seul coup, parce qu'on fait en sorte qu'il n'y a pas de commentaires dans le film. Mm-hmm. Donc il faut pas encombrer le film avec du son, faut laisser l'image, et que le spectateur se retrouve au milieu de la forêt. Et il verra que la forêt, c'est un spectacle enchanteur, étourdissant.
Et alors, vous utilisez beaucoup ce qu'on appelle l'imprégnation pour les animaux. C'est pas du dressage. Hein. D'ailleurs, on fait la différence entre dresseur et imprégnateur. Je sais pas si on dit ça. Et nous avons justement avec nous un soigneur animalier qui s'appelle Marie-Noëlle Divet, qui est soigneur animalier au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. C'est près de Lyon. Hein, c'est au cœur de la Dombe. Et qui a participé avec vous alors à la préparation du peuple migrateur, d'océan et des saisons. Elle a préparé les animaux, les oiseaux, en les imprégnant. Alors, on va voir ce que c'est l'imprégnation. Marie-Noëlle, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous un peu, quelle est cette méthode douce et naturelle, moi j'appelle ça une méthode douce et naturelle, qui est l'imprégnation des animaux?
Alors, en fin de compte, moi j'ai participé au peuple migrateur et aux saisons. Donc on a commencé par le peuple migrateur, surtout au stade œuf, puisque l'oisillon ou le poussin entend déjà ses parents à 2 jours, donc on profitait de cette écoute du petitot pour lui faire écouter le bruit de l'ULM et des personnes qui allaient s'en occuper par la suite, pour le familiariser.
Oui.
Et ensuite, à l'éclosion, il voyait tout de suite l'humain et donc était familiarisé naturellement par cet humain. Donc,
c'est-à-dire que l'oiseau, quand il sort de l'œuf, la première chose qu'il voit en mouvement, c'est un peu ça, en tout cas vivant, il le prend pour un congénère, en tout cas pour ses parents.
Tout à fait.
Et c'est ça l'imprégnation.
C'est ça l'imprégnation.
si tu parais, bonjour Marie-Noël, c'est Jacques, bonjour, je t'embrasse Jacques. Très fort. Mais de dire aussi que Marie-Noël et que les autres personnes, imprégnateurs, imprégnatrices, qu'elle a formées. Il y a une chose qui est la technique. Alors comment vous avez fait? Ben, j'ai expliqué, j'ai pris 15 jours de stage, j'ai fait etc. On explique plein de choses. Il y a une chose qui ne s'explique pas. C'est l'affection profonde qu'a Marie-Noël et les personnes qu'elle a formées, cet attachement aux animaux.
Aux oiseaux.
Et donc, vous savez, c'est jour et nuit. Les 15 premiers jours, c'est vraiment de dormir à côté dans la petite volière et puis de regarder dans la nuit si tout se passe bien à tout moment. Et la béquée, alors ça, pour les grands animaux, c'est relativement plus facile, mais quand il s'agit des petits passereaux, mais c'est quelques gouttes de quelques graines qu'il faut leur glisser dans le bien bec sûr. Mais c'est fait avec une délicatesse, hein, c'est que on ah, j'aurais bien devenir imprégnateur. D'abord, on va vous passer un examen, dites-moi ce que vous pensez des animaux, après on verra.
Alors, quels sont les oiseaux que vous avez élevés, enfin, je ne sais pas comment dire, pour les saisons, et combien de temps cela vous a demandé pour les préparer pour le tournage?
Préparation.
Alors, ça dépend des espèces. Je voulais quand même ajouter, parce que pour les petits passereaux, on ne les prenait pas au stade œuf, on les prenait à 4-5 jours avant qu'ils ouvrent les yeux. Parce que c'est des espèces tellement petites que ça serait trop délicat de les élever au stade œuf. Et excusez-moi votre question.
Quels sont les oiseaux?
La préparation,
en fait. La préparation, combien de temps elle a? Quels sont les oiseaux qui ont été préparés pour le film et le temps de préparation?
Alors, le temps de préparation, ça dépendait des espèces, mais ça va très vite puisque la croissance chez les petits passereaux est rapide.
Mais les pélicans, par exemple.
Ah, les pélicans, alors eux, oui, ça a été beaucoup plus long. Alors eux, ils venaient du peuple migrateur. Et j'ai pu les dates. Oui, il fallait bien deux mois de préparation, voire plus.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, au bout de 2 mois, 3 mois, les oiseaux sont attachés aux imprégnateurs et qu'ils sont pas dans une cage, ils sont pas tenus en laisse.
Ouais.
Mais vous laissez ces pélicans, qui c'est énorme, quel est l'envergure, Gilbert, je sais plus très bien, ou Marinette.
2 mètres, plus de 2 mètres, 2 mètres 50.
Et donc on en avait toute une troupe pour le peuple migrateur, moins pour les saisons. Mais vous les lâchez, donc ils s'en vont, ils peuvent monter si jamais il y a comment s'appelle une cheminée d'air chaud. Ils montent tout en haut comme ça, peut-être à 1000 mètres, 2000 mètres. Ils tournent, et à un certain moment, ils sont bons. Bon, ben voilà, on a perdu les pélicans.
Oui.
Et non,
deux heures
après, ils reviennent. Parce que voilà, il y a un havre de tranquillité avec la présence des parents de substitution, parce que c'est un peu ça.
Oui.
Et ils se sentent tranquilles. Et vous savez, les pélicans, c'est pas bien, parce que c'est un peu anthropomorphique. Mais un pélican qui revient auprès de son imprégnateur, il ouvre grand les ailes et il referme ses ailes sur la personne.
Un hug, comme on dit maintenant.
Oui. Mais oui, c'est bouleversant.
Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir aussi ces oiseaux-là en spectacle, hein, à Villard-les-Dombes, au parc des oiseaux, où on voit justement ces pélicans qui vont très loin et qui reviennent quand même. Parce qu'on se dit, on va les perdre. Mais non, on ne les perd pas, justement.
On revient dans un instant. On découvre ce matin le dernier film de Jacques Perrin, Les Saisons, en salle depuis mercredi dernier. 3216animaux@rmc.fr pour être avec nous ce matin. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC, le week-end des experts, les animaux, et jusqu'à 8h, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Perrin, le réalisateur du film Les Saisons, en salle depuis mercredi dernier. À ses côtés, nous avons Gilbert Cochet, nous avons aussi Marie-Noël Divet, qui est soigneur animalier, et puis Laetitia Barlerin, bien évidemment, comme chaque dimanche. Laetitia, nous avons Isabelle au téléphone.
Oui.
Isabelle qui est une spectatrice, qui a vu le film Les Saisons, et qui aimerait bien en discuter avec vous, Jacques. Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez vu Les Saisons cette semaine, j'imagine?
Oui, j'ai vu le film mercredi soir avec mon mari.
Et alors?
C'est grandiose. En fait, moi, je m'attendais à... Bon, j'avais déjà vu des extraits du film, donc tout de suite, on a mordu dès la première image. C'est vrai qu'on voit beaucoup la forêt, les animaux et leur milieu. Et là, j'étais enchantée. C'est magique.
Vous savez que Jacques Perrin vous écoute.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez une question à lui poser?
Alors oui, j'ai une petite question. Bon, nous, on est fervents défenseurs des animaux sauvages, surtout de la forêt, dont le cerf. Donc, on a vu qu'il avait fait, un petit morceau d'émission avec un cerf qui est plus ou moins,
apprivoisé.
Apprivoisé, non. Ni dressé, ni apprivoisé, mais imprégné. Oui.
C'est pas du
dressage.
Il n'avait
pas eu peur parce qu'il est quand même
imposant.
imposant. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même toujours des animaux sauvages. Parfois même des gens sont blessés par ces animaux parce qu'ils les considèrent comme apprivoisés et en fait ils le sont jamais complètement, quoi.
Absolument.
Alors est-ce que c'était un tournage dangereux?
Dangereux et pour l'un et pour l'autre. Dangereux pour l'homme parce que c'est vrai, des imprégnateurs, l'équipe technique qui tourne tout autour, l'animal, le cerf, en étant tout à fait à l'aise, peut doucement remonter la tête. Avec la longueur des bois, ça va à une vitesse,
ça peut faire très mal.
Ça peut faire très très mal. Et puis une autre chose, nous aussi, on doit faire attention au cerf parce que il est très vite, il peut devenir très vite très stressé. Étant stressé, il a des risques cardiaques. Donc il faut faire très attention pour nous-mêmes et aussi pour celui que nous avons en face.
Alors il y a des scènes justement de prédation entre le loup et d'autres animaux. Faut nous rassurer là, les animaux n'ont pas souffert pendant le tournage.
Gilbert va, alors, si vous voulez bien, va vous répondre.
Oui, Gilbert Cochet, dites-nous.
Oui, en effet, à aucun moment, aucun animal.
Vous êtes quand même de l'association pour la protection des animaux sauvages, ASPA. Alors vous avez vu, il n'y a pas eu de...
Non, en effet, notamment les poursuites dans la Dombe, là j'étais présent.
Oui.
Et en fait, vous avez les loups qui courent, qui s'amusent, hein, ils sont en pleine forêt. Et puis, vous avez un sanglier qui est ailleurs. Et donc, la magie du cinéma fait que, voilà.
Oui, les chevaux.
Alors, avec les chevaux, là, c'est tout autre chose.
Ils sont sur la même image. Hein.
Exactement. Et ça, c'est une scène extraordinaire que nous avons. On l'a, en quelque sorte, ressuscité du passé. C'est-à-dire que le scientifique dit, voilà, il y a quelques milliers d'années, il y avait des chevaux sauvages. Il y avait des loups. Donc, très probablement qu'il y avait une interaction entre eux. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Les loups étaient seuls, les chevaux étaient seuls. Et puis, au bout d'un moment, les deux étaient ensemble. Et on voit les chevaux qui sont poursuivis par les loups. Un cheval est isolé.
Isolé, oui, un moment.
Mais à un moment donné, on voit...
Il se défend bien.
Voilà, exactement.
Il a su se défendre.
Et donc, les loups, finalement, n'ont pas trop inquiété les chevaux. Par contre, il y a une scène où on voit les loups qui sont en train de manger un sanglier.
Oui.
En fait, c'est un cuisseau de sanglier qu'on vient d'acheter à la boucherie locale.
Oui, parce qu'on voit une patte.
Voilà. Vous avez vu une patte et vous avez tout vu parce qu'il n'y a qu'une patte.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on se pose des questions quand on voit
le
film.
Oui, bien sûr. Il y avait encore l'étiquette.
Et je pense que le lynx qui chasse aussi la biche.
Le lynx qui chasse la biche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce lynx, on l'a caressé. Imaginez, moi j'ai caressé le lynx plusieurs fois. Il vient ronronner dans vos bras, c'est quelque chose de fabuleux. Et en fait, il est né en même temps que la jeune biche qu'il poursuit.
Oui.
Et donc, dans le film, bien sûr, c'est le lynx qui poursuit la biche. Mais dans la réalité, plusieurs fois, c'était la biche qui poursuivait le lynx.
En fait, quand il joue.
Il joue.
Ah, vous
voilà.
Nous rassurez.
Voilà.
Mais on voit pas de sang, hein. Je vous rassure, hein, pour ceux qui n'ont pas vu.
Sachez que dans nos avant-premières, on a présenté à des enfants. Et il y a une scène où on tue les loups. Il y a trois loups qui sont tués dans le film.
Oui.
Et à ce moment-là, les enfants nous demandent, mais ils sont vraiment morts? Alors on leur explique, non, il y a un petit système, ils font de la culbute et après ils relèvent.
Et,
et si vous aviez vu le visage de ces enfants,
ils
qui tout à coup s'illumine, le sourire arrive, ils n'ont pas tué les loups, c'est merveilleux.
Voilà, ça c'est
une belle image de l'avenir.
Jacques, quelle a été la scène la plus compliquée à tourner?
Bon, je crois que c'est ce que l'on a exprimé. Hein. Qui était compliqué finalement quand on a pu la tourner. À un certain moment, les choses se dénouent et arrivent. Donc, ça a été effectivement la suite des loups vis-à-vis des chevaux. Des chevaux. On pensait véritablement faire comme avec le sanglier, les prises de vue d'un côté et les prises de vue avec l'autre espèce. Et puis, avec la magie du montage, on réunit les deux espèces. Puis, au fur et à mesure, comme l'indiquait Gilbert, les enclos dans lesquels ils étaient, en vue de la préparation très rapide des films, on a ouvert une barrière et puis il y a le cheval qui s'est approché un peu de l'enclos du loup. Le loup qui est sorti, il se respirait. Ils étaient un peu craintifs, ils demandaient qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il y avait des instincts comme ça innés qui allaient réapparaître. On ne sait pas très bien. Et puis finalement, tous se sont presque réunis et on a ouvert grand les barrières. Et là, sur un parcours qu'on avait imaginé pour notre engin qui va très vite, qui démarre effectivement d'une façon électrique, les deux, et ça a été une joie, mais formidable. Rendez compte que ça apparaissait effectivement un reportage qui a été fait il y a 5000 ans, comme quoi les loups véritablement courent derrière les chevaux.
Et
les sangliers.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très bien, moi j'aime bien aimer cette image, parce qu'aujourd'hui il y a un grand problème de sangliers, de surpopulation de sangliers, et on dit oui, mais si on augmente les prédateurs, ça ne va pas résoudre le problème des sangliers. Mais les loups chassaient les sangliers.
Oui, chasser les sangliers. Et je sais bien que les loups, on essaye de les abattre.
Bien sûr.
Avec entêtement, on essaye d'abattre les renards, on essaye d'abattre les sangliers. Tout ce que l'on dit dans le film, il y a des animaux qui sont utiles, donc qui sont nuisibles. Et puis, comme la chouette, des animaux qui font peur. On va pas rentrer dans ce débat. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les animaux qui sont persécutés, les animaux qui sont menacés, et éventuellement, et ça arrive, qui sont tués, c'est vraiment dommage. On tue la nature, on tue tout ce qui exprime, non pas le sauvage, mais la liberté. On la tue. Donc, à un certain moment, si on continuait à ce rythme-là, de cette façon-là, on va se retrouver sur une grande place pleine de béton. On va être entre individus, entre gens humains. On va se parler. Il y aura peut-être un peu de brise, mais il n'y aura pas le bruit des animaux. Il n'y aura pas les chevauchées folles des animaux. Et je vous assure qu'on y perdra beaucoup pour notre esprit, pour l'oxygène mental, et on ne saura plus raconter quoi que ce soit aux enfants. Alors, donc, on en a besoin, tous.
Vous êtes impliqué dans la protection de la nature. J'ai vu que vous étiez, vous avez inauguré avec Gilbert Cochet début janvier, la réserve des Deux Lacs à Châteauneuf-du-Rhône, c'est dans la Drôme. C'est une nouvelle réserve naturelle, ou plutôt une réserve de vie sauvage. Alors, c'est quoi la différence entre réserve naturelle et réserve de vie sauvage?
Alors, une réserve naturelle, c'est un statut officiel. Moi, j'ai l'honneur de présider la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. La réserve de vie sauvage, c'est une réserve citoyenne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a fait une acquisition foncière, c'est-à-dire il y a eu des donateurs, les membres de l'association de l'ASPAS, donc on fait des dons, et avec cet argent, on a acheté une première réserve dans le sud de la Drôme, que Jacques Perrin a inaugurée il y a 2 ans. Et puis, on a fait une deuxième réserve de vie sauvage, la réserve des Deux Lacs, pareil, acquisition foncière. Donc, quand vous êtes propriétaire, vous maîtrisez le foncier et vous maîtrisez tout ce qui se passe sur cette réserve.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de chasse?
Il n'y a pas de chasse, il n'y a pas d'exploitation forestière, il n'y a pas de pâturage.
Mais c'est nature.
C'est la nature.
C'est un sanctuaire, quelque part.
Exactement, c'est le bon mot. Et ce mot-là, il faut l'oser. Sanctuariser certaines parties de notre territoire.
Et pourquoi c'est important, ces sanctuaires de vie sauvage?
C'est important parce que, si vous voulez, ça montre que la vie sauvage peut s'épanouir d'elle-même. Parce que
elle n'a pas besoin de l'homme.
Eh oui, l'homme manque beaucoup d'humilité. Il est persuadé que tout existe parce qu'il est là. On pourrait réécrire le texte de la Genèse. Au premier jour, le forestier a créé la forêt. Au deuxième jour, le chasseur a créé le gibier. Au troisième jour, le pêcheur a créé le poisson. C'est presque ça. Et puis au quatrième jour, le gestionnaire de site a créé l'orchidée et le papillon. C'est faux, archi faux. Et donc on plaide pour des sanctuaires les plus vastes possibles où la nature puisse s'exprimer. Et notamment avec des relations entre les prédateurs et d'autres espèces, et avec le retour des grosses espèces. Ça aussi, c'est un point très important. Quand on a fait nos avant-premières, quand on était à Chamonix, on a dit, dans ce site magnifique, il n'y a rien. Et on revient des Carpates, il y a 6000 ours. Donc on a dit au maire de Chamonix, allez, on réintroduit l'ours, stoppez là, et c'est bon. Il a été obligé de dire oui.
Il a été obligé de dire oui. obligé.
Il était un peu obligé. Bon, après, maintenant, il faut qu'il le fasse, parce que vous savez, les hommes politiques, parfois,
ils
prévoient des trucs.
Mais il y avait du monde, hein, il y avait des témoins. Ils étaient nombreux.
D'accord.
Est-ce que dit Gilbert, ce qui est très bien, il y a pourtant la place pour les animaux. Il y a la place pour qu'on voit toutes les régions, toutes les provinces. Mais c'est dans la tête qu'il n'y a pas la place. Donc c'est vraiment la mentalité de chacun, des services de tutelle qui doivent changer d'esprit.
Jacques, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure entière sur RMC.
Merci. Alors vous préparez un nouveau film.
Alors c'est quoi l'après les saisons?
D'abord, vous n'abandonnez pas la comédie, parce que ça, les auditeurs aussi se demandent si...
Allons bon.
Non bon.
Non, je sais pas, vous savez, les films, moi je tiens pas du tout à ce que l'on devienne les professionnels du cinéma qui évoquent la nature. Je sais pas, je vais aller me balader avec ou sans Jacques Clouseau. Je vais aller voir des lieux que j'aime bien, peut-être de mon enfance ou d'autres. Et puis je sais qu'à un moment, je retrouverai quelque chose qui me dira, ça y est, on fait ça. Mais c'est pas...
Vous l'avez pas encore, donc vous ne savez pas.
Non. J'ai des sujets, mais pas encore.
Pas encore celui qui sera le prochain
absolument.
Sujet de votre
absolument.
Film.
Absolument.
Merci beaucoup, Jacques.
Merci à vous. Merci infiniment. Merci.
En salle depuis mercredi dernier.
Voilà, alors,
à découvrir,
sûr,
pourquoi pas ce dimanche.
Voilà, vous avez compris. Aujourd'hui, si vous ne faites rien, allez au cinéma et dans les jours prochains aussi. Et invitez-vous, toute la famille, vos amis. Allez voir ce film, c'est vraiment une ode pour la vie sauvage.
Laetitia, on sera là dimanche prochain, bien sûr. RMC, 6h-8h. Et vous restez avec nous. Dans quelques instants, la météo, les infos de 8h. Et puis ensuite, on enchaînera avec l'automobile et Jean-Luc Moreau qui m'accompagne, vous savez, comme chaque dimanche. A tout de suite.